Il n'y a pas besoin de compter jusqu'à 7. Un de mes films préférés, c'est Seul au monde. Seul au monde avec Tom Hanks. Vous l'avez probablement, beaucoup d'entre vous l'ont vu. C'est l'histoire d'un naufragé qui se retrouve sur une île déserte après la chute de son avion. Il est tenu pour mort parce qu'il y reste 5 ans. 5 ans seul au monde, seul sur une île déserte. Le titre original, c'est Castaway. Castaway en anglais, c'est littéralement rejeté et même répudié. Pourquoi répudié ? Parce que quand au bout de 5 ans, il arrive à partir de cette île, à être secouru, à revenir chez lui, celui qui lui avait permis de vivre, de survivre, c'est-à-dire la femme qu'il aimait, il avait son médaillon en photo, il le regardait tous les jours, c'est comme ça qu'il avait tenu, eh bien, comme tout le monde pensait qu'il était mort, elle s'était remariée. De mémoire, je crois, je n'ai pas revu le film récemment, mais de mémoire, avec son dentiste. L'horreur. Plus sérieusement, l'horreur véritable, quand la femme ou l'homme de votre vie devient l'amour de quelqu'un d'autre. L'homme ou la femme de quelqu'un d'autre part avec quelqu'un d'autre, refait sa vie sans vous. Et il nous faut un peu plus de compassion, surtout ici, un peu plus de compassion pour tous les conjoints trahis et abandonnés. On dit aujourd'hui, ça vaut mieux se séparer, vaut mieux essayer de refaire sa vie, plutôt que d'être malheureux, plutôt que de se disputer. Et on ne dit pas ça aujourd'hui. Ça fait partie de la question des Sadducéens. Fait partie de la question des Sadducéens, ces hommes, ces 7 frères, qui ont eu la même femme pour épouse dans leur vie, comment est-ce qu'ils vont faire, après leur mort, pour ne pas se disputer? Pour ne pas se la disputer? Et même, pour formuler les choses de façon encore plus brutale, à qui est-ce que va revenir le trophée? Parce que c'est comme ça que beaucoup encore aujourd'hui pensent, un trophée. Et on comprend la colère de Dieu. Et il faut entendre dans cet évangile la colère de Jésus. Les évangiles de Matthieu et de Marc le rapportent de façon plus littérale, en disant, vous êtes complètement dans l'erreur. N'avez-vous pas lu les Écritures? Vous êtes complètement dans l'erreur. Complètement dans l'erreur sur la résurrection, sur le mariage, sur la vie éternelle, sur le bonheur avec le Seigneur. Parce que lorsque nous parlons de résurrection, nous disons, et c'est plus juste, la résurrection bienheureuse. Dans la première lecture, c'est la résurrection pour la vie. Parce que pour la résurrection, nous ressusciterons tous, croyants ou incroyants. Tous. Notre âme est immortelle. Notre âme ne meurt pas. Tous nous ressusciterons. Soit pour le bonheur, soit pour le malheur, pour le châtiment. Le jugement. Et le châtiment possiblement éternel, ce qu'on appelle l'enfer. L'heure vient, dit Jésus, où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de l'homme. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre. Ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. La foi, nous le proclamons dans le credo, la foi dans le jugement, ça fait partie de la résurrection. Et dans le refus aujourd'hui, de la vie éternelle, de l'espérance chrétienne, de la résurrection, il y a toujours le même refus aussi du jugement, c'est-à-dire de notre propre responsabilité. Nous aimerions ne jamais avoir rendre des comptes de notre existence. Et cette question des Sadducéens est d'autant plus importante qu'elle montre que ce refus n'est pas nouveau. Simplement aujourd'hui, ça a pris une forme nouvelle avec cette conviction si largement répandue qu'après la mort, je cite, on ne souffre plus. On aimerait bien, mais on n'a pas le droit de dire ça. On n'en sait rien, on l'espère, ça fait partie de notre espérance, mais on n'en sait rien. Pourquoi le Christ, au jour de Pâques, est-il apparu à ses disciples en montrant ses plaies? Voyez mes mains, voyez mon côté transpercé. Pour qu'ils voient que c'est bien lui, mais ils ne le reconnaissent pas, leurs yeux sont aveuglés. Ils sont exactement comme nous, ils ne veulent pas voir la continuité fondamentale. Bien sûr qu'il y a une rupture de la mort. Et le grand changement de la mort, c'est la vision de Dieu. Ce n'est pas la séparation de l'âme et du corps, celle-ci est provisoire. La continuité fondamentale pour tout ce qui est de l'ordre de l'amour. L'amour, c'est la loi du royaume. La continuité fondamentale de l'amour est donc forcément aussi, à contrario, de toutes les offenses à l'amour. Cette continuité est affirmée par le Christ lorsqu'il dit par exemple « Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. » Et nous le savons bien, combien d'entre nous parlons aux défunts. Ce ne sont pas des paroles en l'air, d'intuition profonde. Nous percevons cette continuité. Eh bien, cette continuité de l'amour sera pour certains, jusqu'au jugement final, une communion de souffrance. Pascal disait, le Christ est en agonie jusqu'à la fin des temps. Le Christ est en agonie jusqu'à la fin des temps parce que Dieu souffre en Jésus-Christ de nos péchés. Dieu souffre de nos péchés, il faut en prendre conscience. Pourquoi est-ce que nous contemplons le crucifié? Pour voir jusqu'où va l'amour, certes, mais pour qu'on prenne conscience des conséquences directes de nos offenses à Dieu et à l'amour, à nos frères. Lorsqu'une personne se donne la mort et que ce drame terrible provoque chez tous les proches, chez tous ceux qui l'aiment, une souffrance indicible, comment est-ce qu'on peut concevoir que cette personne est ensuite pourrait être dans la paix, alors que tous ses proches sont plongés dans la souffrance. Si exigeante soit-elle, nous devons prendre au sérieux les paroles de Jésus sur ceux qui auront été jugés dignes. Le jugement et la responsabilité. Ceux qui auront été jugés dignes d'avoir part au monde à venir, à la résurrection d'entre les morts, à la vie bienheureuse, et comprendre, accepter, entendre que certains ne le seront pas. Comprendre ce que signifie être saint, ce que nous avons fêté à la Toussaint, être saint bienheureux, ce n'est pas tant qu'ils ne peuvent plus mourir, c'est que ceux-là ne peuvent plus souffrir, n'ont pas besoin de la purification de leurs péchés. Mais vous n'imaginez quand même pas que nous trouverons auprès du Christ, dans la gloire, dans la vie éternelle, les prêtres pédophiles et les évêques qui auront laissé faire. Bien sûr, nous croyons à la miséricorde divine. Nous croyons qu'un pardon est possible. Mais nous croyons aussi que l'expiation, le châtiment et l'expiation sera terrible. Nous trouverons auprès du Christ les victimes innocentes, pas les bourreaux, pas les indifférents. Et les victimes innocentes seront nos juges. Il y a deux façons de se tromper sur la résurrection. Pour les incroyants, ça consiste à rejeter le sujet, se convaincre qu'il n'y a rien après ou que ça n'a pas d'importance. Et puis, pour un certain nombre de croyants, parfois malheureusement de mauvaise foi parce qu'il y a ce que nous proclamons dans le credo, le jugement, le Christ juge des vivants et des morts. Ça consiste à ne pas tenir compte, penser que nous n'aurons pas de compte à rendre à tous ceux qui venaient se faire baptiser par lui. Jean-Baptiste disait, mais qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Nous-mêmes, qui aimons la Vierge Marie, nous savons très bien dans notre cœur que chaque fois que nous comportons mal, la Vierge Marie pleure. Elle est vraiment notre mère.
elle pleure. Et nous devons penser aux deux,
à la colère de Dieu
et aux larmes de la Vierge Marie.